les reportages. À ce moment-là, avec des années de distance, on voit quels sont les bons, quels sont les moins bons. C'est d'ailleurs très curieux, certains que je pensais complètement ratés, je les ai trouvés finalement très justes. Voilà.
Mais là, c'était avec un œil professionnel.
Oui.
Parce que je vais être franc avec vous, en lisant votre livre, je me suis demandé si ce qui vous intéressait le plus fondamentalement, c'était d'être là au cœur de l'histoire, puisque vous avez été à des moments très précis au cœur de l'histoire qui se faisait devant vos yeux, en Libye, au Kosovo, l'élection d'Obama. Ou est-ce que c'était plutôt de percer la nature humaine, de comprendre l'être humain?
Les deux. J'aime être au cœur de l'histoire, j'aime être là où ça se passe. Voilà, c'est le métier de grand reporter qui veut ça, il faut être au bon endroit, au bon moment. Mais j'aime aussi percer les tréfonds de la nature humaine, et je trouve que la nature humaine se révèle beaucoup dans les moments intenses. Voilà. Je trouve que dans les relations que nous avons comme ça à Paris, ça reste souvent assez superficiel. On parle de choses et d'autres, de vacances, de ce qu'on va faire, de voilà. Sauf quand on fait des reportages quelquefois sur des conflits sociaux, là où aussi il y a une grande intensité. Mais dans les guerres, dans les conflits, l'âme humaine se révèle, et là, on voit des gens épouvantables, mais on voit aussi des gens mais complètement héroïques, des gens qui se dépassent eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment fascinant de voir ça.
Et c'est ça que vous cherchiez à saisir, à comprendre dans votre métier ?
Pas forcément au départ. Je l'ai découvert au fur et à mesure, et je me suis rendu compte à ce moment-là de la chance que j'avais d'aller sur ce genre de terrain, et voilà, et d'éprouver tout ça, et de voir tous ces gens que je n'aurais jamais rencontrés dans la vie normale en France.
Et alors, en écrivant ce livre très autobiographique, Martine Laroche-Joubert, ça vous a amené aussi à percer un peu votre nature humaine, votre âme personnelle? Vous y avez trouvé des choses que vous n'aviez jamais pris le temps de faire?
Un peu. Ce livre m'a amené à parler de moi, ce que je n'aime pas faire. Mais il fallait quand même que, pour expliquer ce métier, que je parle de moi. Et être reporter, c'est ne pas parler de soi. C'est, les événements sont plus grands que nous.
Certains choisissent de se mettre en scène,
moi.
Choisissent de parler d'eux à travers leur reportage. Pas vous ?
Je pense qu'on parle toujours de soi à travers un reportage, mais il y a par exemple une tendance en ce moment à faire des reportages qu'on appelle incarnés. C'est-à-dire qu'on voit le reporter un peu partout, on le voit tout le temps à l'image, il raconte ce qu'il voit, etc. etc.
Et vous n'aimez pas ça ?
Ça, je déteste ça.
Pourquoi ?
Je déteste me mettre en scène, et je trouve ça complètement absurde.
D'ailleurs, les grandes stars de la télé en France ou aussi sur CNN font ça.
Oui,
c'est leur manière de faire des reportages.
Je trouve ça complètement absurde. Et d'ailleurs, quelquefois, c'est tellement absurde que je me souviens d'une journaliste qui avait été à Kobané, en Syrie, un peu avant les autres. Et elle nous avait envoyé un reportage. Et dans son reportage, on ne voyait qu'elle. Je n'ai même pas pu passer une image de son reportage. Voilà. Donc, plus tard, quand on va regarder les archives, ça sera bizarre de ne voir que des journalistes quand même. Donc, je trouve que les gens que je vois sont beaucoup plus importants que moi. Quelle importance ! Bon, et de toutes les façons, les reportages sont toujours assez subjectifs. C'est pour ça que je dis qu'on y met toujours de soi. Mais ça suffit, c'est pas la peine d'être à l'antenne.
Alors, vous n'aimez pas le faire, mais c'est le jeu de cette émission Visage, Martine Laroche-Joubert. Donc, on va parler de vous aujourd'hui. Il y a un mot qui traverse, j'ai l'impression, tout votre livre et toute votre vie, c'est le mot de liberté. Je me suis dit que vous étiez habité par une quête de liberté. C'est un mot que vous utilisez souvent. Elle vient d'où, cette quête de liberté qui vous habite ?
Je pense qu'elle vient de ma toute petite enfance. Quand j'avais 3 ans et 4 ans, pendant un an, j'ai habité dans le sud du Maroc, où mon père avait été envoyé en mission. Et là, j'étais dans un tout petit village à l'époque, dans le désert. Et toutes les sensations que j'ai eues à ce moment-là, je peux les ressentir aujourd'hui d'une manière très précise quand je suis sur certains terrains. C'est une sensation. À l'époque, j'avais une sensation d'ivresse avec le vent du Sahara, le vent du désert, la poussière qui s'élevait, les palmiers, les cigognes qui arrivaient l'hiver pour se réfugier.
Tous les souvenirs d'une petite fille de 3 ans et demi, 4 ans.
Exactement. Hein. Les gazelles dans le jardin. Ce sont des souvenirs qui sont extrêmement précis. Les fêtes auxquelles mon père m'emmenait, les cavalcades de chevaux, de chameaux, la neige sur les sommets de l'Atlas. Tout ça, ce sont des odeurs et des sensations qui ont été très fortes, que j'avais perdues après, complètement.
Quand vous êtes revenu en France, parce que vous êtes revenu en France assez jeune, au moment de l'indépendance, votre père est revenu en France.
À la fin du protectorat, c'est-à-dire que avant, je suis allée à Rabat et à Gaza, où je n'avais plus du tout eu ces sensations. Et quand je suis arrivée en France, encore moins, je les avais complètement perdues. Et je les ai retrouvées, mais d'une manière totalement précise, au moment où j'ai commencé à faire des grands reportages à l'étranger, et en particulier quand je suis allée voir les pygmées en Centrafrique, subitement, toutes les sensations que j'avais eues dans ma petite enfance sont revenues.
Alors, vous avez quand même eu une éducation assez rigide, j'ai l'impression. Ouais. Hein, quand on voit votre père, énarque, qui vous poussait vraiment dans vos études, il avait l'air assez rigide. Il vous met chez des religieuses, les dominicaines du Saint-Esprit à Saint-Cloud. On a l'impression que vous n'en gardez pas un très très bon souvenir. C'était un peu raide, un peu rigide. En avez souffert, cette éducation
à
rigide?
À Saint-Pédis, oui, j'ai beaucoup souffert de l'éducation de mon père, à qui au fond, on ne pouvait rien dire. Je n'ai jamais vraiment communiqué ni avec mon père ni avec ma mère. Tous les deux étaient, surtout mon père, très 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 religieux. Donc j'ai été élevée donc dans des institutions catholiques à la réputation extrêmement rigide. Je dois dire que les dominicaines du Saint-Esprit, souvent affolées par la sévérité de mon père, qui ne signait pas mes carnets quand je n'étais pas première, de fureur, donc, ont plutôt été gentilles avec moi. Et voilà.
Visage, Thierry Lyonnais.
Martine Laroche-Joubert, ce besoin de liberté, est-ce qu'il ne s'enracine pas aussi là, dans cette éducation rigide, dans cette éducation chez les religieuses? Ce besoin de liberté, quoi.
Oui, parce que mon père était diplomate, mais il était furieux d'être diplomate, parce qu'il avait fait l'ENA, il était sorti dans le rang qui correspondait au Quai d'Orsay, il voulait être inspecteur des finances, il ne s'est jamais consolé d'être diplomate, et de toutes les façons, je ne suis pas sûre qu'il ait été un bon diplomate, vu son caractère extrêmement rigide. Donc, mon père avait été rentré en France, après le Maroc, et il avait dit, je continuerai à être diplomate, mais j'habiterai Paris. Donc, il faisait des missions à l'étranger, et il revenait sur Paris. Sauf que moi, je voyais ses amis qui partaient sur des destinations qui me faisaient rêver, la Colombie, la Bolivie, l'Extrême-Orient.
Et vous restiez à Saint-Cloud.
Et moi, je restais à Saint-Cloud, coincée chez les sœurs. Mmh. Et donc, je voyais mon père partir et je me disais, mais c'est pas possible, pourquoi moi je dois rester? Donc je pense qu'il doit y avoir aussi une réaction à ça. Mmh.
L'évasion, vous l'avez aussi connue par les livres. J'ai l'impression que les livres ont tenu une place très importante. Alors c'est drôle, il y a quelques semaines, j'avais à ce micro Olivier Weber, un de vos confrères, grand reporter aussi, qui me disait à quel point la lecture avait été fondamentale, je dirais, dans sa structuration du grand reporter qu'il était. Vous, j'ai l'impression que les livres aussi ont tenu une très grande place.
Ah bah la lecture, ça m'a sauvée. Hein. Et là, je dis tout de même merci à mon père, parce que c'est lui qui m'a acheté des livres toute petite. Donc, c'est passé par la Comtesse de Ségur, par tout ça, mais ça a été un moyen d'évasion absolument extraordinaire. Comme je n'aimais pas ma vie, mais du tout, qu'elle ne m'intéressait pas, grâce aux livres, je suis entrée dans d'autres mondes. Et toute petite, j'ai lu des livres qui n'étaient normalement pas pour moi, que je prenais dans les bibliothèques, etc. Bon, j'ai lu, je me souviens, des Nourritures terrestres de Gide, j'ai lu Maupassant très très jeune, vers l'âge de 10 ans, 12 ans. Tous ces livres m'ont nourri, les sœurs Brontë, Jane Eyre, les Hauts-du-Hurlevent, ont nourri un imaginaire, et franchement, je vivais dans les livres.
Comme quoi les frustrations peuvent avoir du bon quelque part, finalement.
Oui, ça peut avoir du bon, l'ennui peut avoir du bon, la lecture, mais ça c'est pas un ennui, au contraire, c'était une évasion pour moi formidable. Je pourrais dire que vraiment, les livres, ça m'a sauvé la peau.
Alors, Martine Laroche-Joubert, avant de parler de votre vie de grand reporter de guerre, hein, que vous menez depuis, on va dire, 1975, vous êtes devenu journaliste en 1975, j'aimerais quand même parler de quelque chose qui m'a un peu surpris dans votre autobiographie, c'est qu'il y a un passage de votre vie, on va dire une dizaine d'années, quand vous étiez plus jeune, dont vous ne parlez pas du tout. C'est-à-dire cette période où vous n'étiez pas grand reporter, vous n'alliez pas sur le terrain, vous viviez à Paris, vous étiez un peu dans la jet-set parisienne. Et ça, vous n'en parlez pas dans votre livre. Hein, il y a quand même eu une période quand vous avez connu votre premier mari, oui. M. Laroche-Joubert. Vous avez mené une vie de fête. Et ça, vous en gardez un mauvais souvenir ?
Non, je n'en garde pratiquement aucun souvenir. Non. Ça m'a effleuré. La seule chose qui me ramenait vraiment dans le réel, c'est que j'ai eu ma fille très jeune. Donc ça, c'était bien.
Ça vous ramenait dans le réel.
Oui, et ça ne m'ennuyait pas du tout de passer des jours entiers à la garder, parce que j'avais mes livres, elle était très sage, j'allais la promener. Mmh. C'est vrai que je sortais le soir, mais je n'aimais pas particulièrement ça. Tout ça, ça m'a effleuré. Bon, il faut dire aussi que je faisais à ce moment-là des études. Hein. J'ai fait du droit, j'ai fait Sciences Po.
Vous vouliez être journaliste déjà ?
Non, pas du tout.
Votre idée ?
Non, pas du tout. J'ai fait du théâtre. Je me suis dit, tiens, peut-être. Mais je ne voulais pas vraiment devenir actrice. Ce que je voulais, c'était revoir les textes classiques d'une manière différente. Mmh. Donc, j'ai joué, mais en cours, hein, Musset, voilà. Et ça m'intéressait vraiment, mais je n'avais pas le feu sacré pour être actrice, je le sentais très bien.
Et vous aviez le feu sacré pour devenir reporter de guerre ?
Pas du tout.
Pas du tout,
pas du tout dans les débuts. Je suis devenue journaliste par défaut, voilà, parce que mon mari à un moment m'a dit, écoute, tu peux pas continuer comme ça à flotter dans la vie, donc il faut que tu aies un métier. Bon, ça me semblait un peu étrange même d'avoir un métier pour moi, de vraiment travailler, de gagner ma vie, je ne voyais pas très bien. Et il m'a dit, voilà, il y a un nouveau journal qui va se créer, le Quotidien de Paris, qui vient de se créer. Donc, vas-y, je suis sûre qu'il cherche des journalistes très diplômés et mal payés. Bon, j'y suis allée, j'ai été engagée dans la minute, dans le service économique. J'ai commencé un dimanche. Ça me semblait absolument épouvantable. Voilà, je cherchais un pseudonyme. Je cherchais d'ailleurs un pseudonyme assez exotique. Et puis, je n'ai même pas eu le temps. On m'a tout de suite donné un article à faire. Et donc, du coup, je l'ai signé. Voilà.
Alors, ce qui est intéressant, Martine Laroche-Joubert, c'est qu'aujourd'hui, on vous identifie immédiatement comme reporter de guerre. Enfin, la majorité des gens vous ont vu sur Antenne 2, France 2, comme reporter de guerre sur le terrain au Kosovo, en Libye, en Érythrée, en Afghanistan. Enfin, la liste serait longue de tous ces lieux où vous avez été. Mais vous avez mis du temps quand même à vous trouver. Vous avez été vraiment reporter de guerre, on va dire, à 37 ans.
Exactement. Oui, exactement. On me l'a dit et finalement, je me disais, non, c'est pas possible. Et si, à l'heure où beaucoup de reporters
arrêtent, décrochent.
Oui, moi j'ai commencé. Avant,
et vous n'avez jamais décroché.
Je n'ai jamais décroché. Avant, je faisais des reportages sur des grands faits divers. Quoi. L'affaire Mestrine, l'enlèvement du baron Ampin, l'affaire Boulin. Mais bon,
en France, quoi, des faits
divers.
En France,
ça m'intéressait. Sans plus, et je ne suis pas sûre d'avoir été très bonne là-dedans. Dans tous les reportages politiques intérieurs, alors là, j'ai toujours détesté les relations avec les politiques français, presque tous, ça s'est mal passé. Il y a toujours, me semble-t-il, chez les politiciens français, une arrogance que je n'ai pas retrouvée chez beaucoup de chefs d'État étrangers.
Pourtant, vous avez rencontré et interviewé de grands chefs d'État.
Oui.
Nelson Mandela.
Exactement.
Il vous a impressionné, vous en parlez.
Il m'a impressionné, donc, mais il n'y avait aucune arrogance en lui. C'est très très différent. Ce que j'ai adoré...
Chez Obama, c'est pareil ?
Aucune.
Aucune arrogance ?
Non. Ils étaient à la fois très différents et très proches. Très proches en ce sens que les deux diffusent autour d'eux une aura dans laquelle on se sent bien et dans laquelle on essaie de donner le meilleur de soi. Mmh. Obama était tout de même quelqu'un, je dirais, de plus distant. Voilà. Tandis que Nelson Mandela était assez charmeur aussi. Il était voilà, il s'intéressait à mon métier, il me posait des questions personnelles. Voilà, ce que ne faisait jamais Obama, qui était réservé.
Ça m'a fait sourire à un moment parce que vous nous parlez de vos coups de foudre, de vos quatre coups de foudre. Avec des nonagénaires. Donc il y avait Mandela, mais il y avait aussi le père Serac.
Oui, le père Serac, je l'ai rencontré en Inde au moment du tsunami. Et j'étais dans le...
Le père Serac, excusez-moi, c'est un jésuite qui s'occupait des enfants de la rue en Inde. Un homme extraordinaire qui a marqué tous ceux qui l'ont rencontré. Et j'en fais partie aussi.
Voilà, et moi il m'a marqué parce que c'était pendant le tsunami, juste après le tsunami en 2004. Et j'avais rendez-vous avec lui pour l'emmener justement voir voir les conséquences du tsunami en Inde. Et bon, il se trouve que j'avais 2-3 heures de retard. Bon, vraiment, je n'aime pas arriver en retard. Et bon, il était déjà un petit peu âgé. Et il m'avait accueilli avec tellement de gentillesse. Évidemment, il m'a excusé tout de suite. Je l'ai emmené avec moi. Et lui aussi, il me posait plein de questions sur mon métier. Il était curieux de notre travail. Et après, je l'ai vu, en effet, avec les gens, sa manière d'être.
Notamment avec les plus pauvres.
Voilà, son empathie, sa compassion, mais qui n'avait rien de méprisant. Ou de. Ce n'était pas de la charité qu'il faisait. Voilà, le mot est plus juste. C'était vraiment une attention extrême. Et j'avais été complètement séduite par lui.
Par le voilà. Père Sérac. Et je cite les autres quand même. Il y a Stéphane Hessel et Soulages.
Voilà, Stéphane Hessel, avec qui je devais aussi partir pour Gaza, faire un reportage avec lui. Et finalement, la rédaction n'a pas voulu. Et voilà, et il ne m'en a pas voulu du tout à moi. Et nous avons discuté. Et lui aussi, il avait un charme absolument incroyable. Une vivacité, une curiosité des autres. Et puis, il y a eu aussi Soulages, que j'ai rencontré voilà, à Beaubourg, et qui lui aussi expliquait son art, sa manière de peindre, avec une simplicité, avec des mots justes, pour les béotiens que nous sommes. Et sa manière de bouger, sa manière d'être, il n'y a en lui non plus ni arrogance, ni prétention. Voilà, donc j'ai eu un coup de foudre pour ces quatre hommes, de plus de 90 ans.
Martine Laroche-Joubert, nous poursuivons sur RCF cet entretien autour de votre livre « Une femme au front » que vous avez publié, vos mémoires de reporter de guerre. Alors, jusqu'à maintenant, on n'a pas beaucoup parlé de guerre, on a parlé de belles rencontres, on a parlé de votre vie à Paris. À quel moment vous vous êtes dit « je suis fait pour ce métier de reporter et notamment de reporter de guerre sur le terrain ?»
Je dirais que c'est arrivé en deux fois. D'abord quand j'ai fait un reportage sur les pygmées et au Niger, où j'ai donc ressenti les mêmes émotions que pendant ma toute petite enfance, mais la situation était paisible. La deuxième fois, ça a été plus définitif, c'était en Haïti, c'était les élections en 1987, que les tontons Macoute, les hommes de main des Duvalier, le père Duvalier était mort et le fils était en fuite, mais les tontons Macoute cherchaient à empêcher ces premières élections libres en Haïti. Ça a été très violent, ils ont découpé des gens à la machette dans les bureaux de vote, devant nous, ils ont cherché nous aussi à nous atteindre. Et là, dans cette situation extrêmement dangereuse, je suis restée très calme, je n'ai pas paniqué. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que ces situations-là, je pouvais arriver à bien les retranscrire, à bien les analyser, à faire des reportages denses, à ne pas m'affoler, à ne pas avoir envie de partir. Voilà, c'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens,
vous
ces reportages...
Vous l'avez découvert en vous, à ce moment-là.
Oui, j'ai découvert ça en moi.
Vous étiez consciente de cela.
Oui, que je ne cédais pas à la panique, que j'avais peur, bien entendu, hein, bien sûr, mais la peur, c'est bien, la peur, elle est souvent bonne conseillère, la panique, jamais.
Attendez, ça c'est très intéressant. Ouais. Une des qualités d'un reporter de guerre sur le terrain, c'est ça. C'est de ne pas céder à la panique, mais d'accepter d'avoir peur.
Ouais.
Parce qu'on a quand même peur.
Ah oui, on a peur. Bien sûr qu'on a peur. On a peur parce qu'on est obligé de franchir les lignes. Vous voyez, si moi je veux faire un bon reportage, je peux rester autour d'un conflit avec les hôpitaux, les réfugiés, tout ça, c'est possible. Mais bon, tout le monde peut faire ça. À un moment, il faut passer les lignes. Il faut passer au feu orange, au feu rouge, même au feu rouge clignotant. Bon, il faut aller là où ça se passe.
Au front, comme vous
exactement,
dites.
Exactement, au front. Et voilà, donc ça, c'est... il faut le faire. Et c'est normal, à ce moment-là, d'avoir peur. La peur, elle est là. Elle n'est pas, je pense, aussi présente que si ça m'arrivait dans la vie normale, parce que le travail me protège. Mais la peur fait que vous êtes quand même prudent, entre guillemets. La panique, en revanche, c'est quelque chose de très contagieux. Il suffit qu'un groupe panique et toute une foule peut paniquer, et moi aussi. Et là, ça devient très dangereux parce qu'on prend de mauvaises décisions.
Mais vous, Martine Laroche-Joubert, en tant que journaliste, vous n'avez rien qui vous protège. Je dis ça parce que j'ai interviewé Reza, le photographe qui a été longtemps photographe de guerre. Il me disait, mon appareil photo me protégeait. Vos collègues GRI, caméramans, ont leur caméra qui les protège quelque part. Tous m'ont dit ça. Ils se sentent protégés. Vous, vous n'avez rien.
Si quand même, j'ai le travail que je dois faire. C'est-à-dire que dans ma tête, il y a deux choses qui se passent. À la fois, je regarde ce qui est autour de moi, mais je pense au reportage que je vais faire avec ça. Donc, vous voyez, j'ai comme mon cerveau séparé en deux. Donc voilà. Et puis, il y a un compte à rebours aussi qui s'enclenche dans ma tête. C'est-à-dire quand je suis en news et que je dois envoyer un reportage pour le soir, bon, je suis à la fois sur le terrain, mais en même temps, je pense que autant qu'il va me falloir pour repartir à l'arrière, monter le reportage et l'envoyer pour le 20h. Vous voyez ? Et ça...
Il y a cette urgence aussi. Voilà. Vous êtes dans l'urgence en permanence.
Oui, je suis dans l'urgence, mais cette urgence aussi me protège de la peur et des émotions trop fortes.
Qu'est-ce que vous recherchez fondamentalement, quoi ? C'est une poussée d'adrénaline ? Parce que vous êtes...
Oui, sûrement un peu.
Vous êtes rentré souvent parmi les tout premiers, voire parmi les premiers journalistes dans des zones de guerre. Sarajevo assiégé, vous étiez l'une des premières, je crois,
ou la première. Oui. En télé, oui, la première.
À plusieurs reprises, hein,
oui,
ça vous est arrivé.
En Libye, pendant la Révolution.
Vous étiez la première. Qu'est-ce que vous recherchez en sachant que vous risquez de vous ramasser une bombe sur la tête ou une balle d'un sniper ?
Bon, je ne pense pas beaucoup à ça, ni à une bombe sur... Parce que si on commence à penser à ça avant d'être à l'endroit où bombe, où sniper, etc., bon, on n'irait nulle part. Donc je ne pense pas tellement à ça. Ce que je veux, c'est être là où ça se passe. Bon, bien sûr qu'il y a une part d'adrénaline, une part d'excitation du danger, une part... voilà, c'est... On dit souvent que ce genre de reportage, c'est une drogue dure. Et c'est vrai que c'est une drogue dure. Quand je ne fais pas ça, quand je ne suis pas sur une zone de guerre, j'ai un léger manque.
Encore aujourd'hui ?
Oui. Mais j'ai un manque. Mais je vis avec ce manque. Mmh. Voilà, c'est un manque. Mais... quelles que soient les raisons pour lesquelles on va sur les zones de guerre, et c'est pas une très bonne raison d'aller rechercher de l'adrénaline, c'est plutôt une mauvaise raison d'ailleurs. Mais enfin, quelles que soient les raisons, tout ça, ça disparaît quand vous êtes en zone de guerre. Quand vous êtes en zone de guerre, vous êtes là simplement pour rendre compte le mieux possible. Voilà.
Témoigner. C'est ça, votre objectif premier.
C'est ça, c'est témoigner de ce que je vois, restituer au mieux la parole des gens que je rencontre, restituer au mieux le contexte, voilà, être exactement raconté une histoire forte, c'est ça qui compte. Mmh. Voilà, moi-même, là-dedans, je n'existe plus, je
D'accord.
suis
mais
dissoute.
Ça, je dirais, ça, c'est votre travail. C'est le travail. Un photographe de guerre va ramener les belles photos, bien saisies, au bon moment, au bel endroit. Vous, ça va être de faire votre reportage. Mais ce que j'aimerais sentir, c'est ce qui vit en vous, ce qui se passe en vous. Vous êtes sur le terrain à un moment. Un de vos confrères plus âgés, Jean-Claude Guibaud, m'a raconté qu'un jour, au Vietnam, lui, il couvrait la guerre du Vietnam, il était monté dans un avion, et l'avion bombardait pour nettoyer, comme on disait, et préparer l'avancée des troupes. Et qu'il avait ressenti une sorte de jubilation, un peu, vous savez, à la Apocalypse Now.
Ouais.
Et il s'en est voulu après. Mais il me dit, il y a une sorte de jouissance, parfois, d'être dans des zones de guerre. Est-ce que vous, femme, vous avez ressenti ça un jour ?
Oui, pas tout à fait de la même manière... On peut le ressentir parce qu'on est dans un endroit unique. Je me souviens qu'il y avait un... Et vous êtes dans une situation qui est exceptionnelle et que les gens ailleurs ne vivent pas. Donc c'est exaltant.
Ouais, c'est ça,
une exaltation. Je me souviens que quand j'étais à Sarajevo, il y avait un reporter du New York Times, John Burns, qui avait dit « Tout ce dont rêve un journaliste est là ». À Sarajevo. Et nous étions...
Dans le siège et dans l'horreur de ce siège à Sarajevo.
Parce qu'il y avait une unité de lieu, parce qu'une unité de temps, parce que c'était comme un théâtre avec la mort en finale, quoi. Donc c'était extrêmement fort. Maintenant, Il est arrivé, par exemple, quand j'étais au Zaïre, que j'ai eu une réaction qui m'a choquée moi-même. Par exemple, j'étais dans une foule de gens qui fuyaient les rebelles et les gens mouraient de faim autour de nous. Littéralement, il y avait des cadavres partout. Voilà.
Ces gens qui fuyaient le Rwanda.
Alors c'était des gens, c'était les familles des génocidaires qui avaient fui au Zaïre et qui, à leur tour, étaient poursuivis par les rebelles pour être tués. C'était les familles des anciens bourreaux qui...
Du Rwanda, hein, c'est ça.
Exactement, c'est... qui elles-mêmes étaient poursuivies et massacrées à leur tour. Donc déjà, c'était une situation dans la tête un peu bouleversante. Mm-hmm. Mais quoi qu'il en soit, il y avait beaucoup de femmes qui n'étaient pour rien, il y avait beaucoup, beaucoup d'enfants. Et à un moment, j'ai vu un photographe qui allait chercher un bébé qui était en train de mourir très loin dans la file et qui l'a amené dans un tout petit poste de secours où il n'y avait rien, très peu de médicaments. Mais il a eu ce geste-là. Et moi, je ne pensais qu'à la diffusion du reportage, comment on va faire pour le témoigner au plus vite. Et je me suis dit, mais je ne suis même pas capable de faire ça, d'aller chercher un bébé, de l'amener dans un poste de secours. Mais vraiment, c'est... humainement, je suis nulle. Donc,
Mais est-ce que c'est votre
ça m'a bouleversée. Si ça m'a.
Martine Larogé-Bert, est-ce que c'est
faire.
Votre rôle quand on est journaliste, grand reporter dans une zone comme ça de conflit, d'aider, de ramasser un enfant
Oui,
mourant?
Je pense que oui. Je ne peux pas me laisser trop submerger par les émotions. Par exemple, si je suis dans un endroit où les mères pleurent leurs enfants, etc., je peux avoir les larmes qui me montent aux yeux, mais il faut que j'arrête. Parce que
Comment on fait pour maîtriser son émotion quand on est face à l'inacceptable?
Il faut se ressaisir violemment. Il faut bloquer. Voilà, je bloque.
Mais comment
je bloque les émotions. Je les bloque. J'ai pas tellement le choix. Il faut que je le fasse. Vous voyez, j'ai pas l'option voilà, je peux les prendre dans mes bras, mais pas davantage. Je ne peux pas rester des heures avec elles, à les écouter parler. Il faut un moment que je m'en aille, tout simplement, parce que je dois envoyer le reportage. Donc ça, si vous voulez, je n'ai pas le choix. Il y a mon travail. Voilà. Mais le fait d'aller chercher un enfant pour l'amener dans un poste de secours, ça ne me retardera en rien, enfin je veux dire, voilà, il faut que je le fasse. Et de toutes les façons, il y a un moment aussi quand même où je pense que sauver un bébé, c'est plus, quand même plus important que d'envoyer un reportage. S'il n'y a pas de reportage dans le 20h, eh ben, tant pis, il n'y en aura pas.
Et quand vous voyez, vu en Érythrée, des foules arriver avec ces mères qui portaient leurs enfants, mais des foules. Quand vous avez vu au Rwanda aussi toutes ces foules-là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Si vous en sauvez
je
un, il y en a des milliers, des dizaines de milliers qui suivent.
Oui, mais même un. Vous voyez, même un. Celui-là, j'aurais dû faire le geste, non seulement pour lui, mais aussi pour moi.
Martine Larogé-Bert, nous avons parlé ensemble des émotions, de la peur. J'aimerais qu'on parle de la mort. Dans votre métier de grande reporter, vous êtes confrontée sans cesse à la mort des autres, mais aussi peut-être au risque de votre propre mort. Vous écrivez ceci dans votre livre « Une femme au front ». À la façon du soldat, le grand reporter a choisi son métier, autrement dit son risque. Alors la mort est une présence de chaque instant, une vieille connaissance à laquelle je finis par m'accoutumer. Mieux, je peux même ne pas la détester complètement, car je sais bien ce que je lui dois, une certaine intensité à me sentir vivante. J'aimerais que vous nous parliez de votre relation particulière avec la mort.
Je sais que je peux mourir à tout instant. Je n'y crois pas vraiment, mais je le sais. J'ai l'impression quelquefois d'être invulnérable, mais je sais en même temps que c'est une erreur, que je ne suis pas invulnérable. J'ai trop vu de journalistes tués autour de moi ou gravement blessés. Chaque fois que j'ai cru mourir, je me suis découverte étonnamment calme.
Par exemple, où vous avez vraiment failli mourir, où vous avez été blessée.
Oui. J'ai été blessée en ex-Yougoslavie, en Croatie. Il y avait des tirs autour de moi. J'étais par terre, je ne pouvais pas me relever. Je dois dire que je n'avais pas peur, j'étais surtout folle de rage contre moi-même parce que j'étais tombée. Et je trouvais que tomber comme ça, sous des tirs, j'étais vraiment en colère. Jusqu'à ce qu'un journaliste anglais vienne me chercher lui-même sous les tirs, il aurait pu être tué lui-même. J'ai cru une fois mourir quand le MV, j'étais embedded avec les Américains, embarqué avec eux en Irak. Et le MV, ça allait les jeeps avec laquelle je patrouillais, la jeep avec laquelle... dans laquelle j'étais, a sauté sur une mine. Donc la Jeep a été projetée en l'air et j'ai eu le temps vraiment de penser, voilà, ça y est. Et je l'ai pensé, j'étais très calme. Ça y est, c'est le destin. J'ai pensé ça. Et puis non, la Jeep est retombée et je n'étais pas morte.
Après, vous dites, ça y est, c'est le destin. C'est-à-dire que vous vous dites, si je dois mourir, je mourrai.
Voilà.
Et sinon, ça passera. Mais... j'ai une bonne étoile ?
Non, je pensais vraiment que j'allais mourir. J'ai eu le temps comme ça pendant... Ça va vite, hein. Mais voilà, je me suis dit, voilà, ça y est, c'est dans l'ordre des choses, en quelque sorte. J'ai beaucoup risqué ma peau, et ben voilà, ça
Martine
arrive.
Martine Laroche-Joubert, quand on est une mère, comme vous l'êtes, vous avez deux enfants qui sont grands maintenant, mais quand vous êtes partie, je crois, l'aîné avait 15 ans et le plus petit avait 2 ans.
Oui, 18 mois, oui. La première fois, quand je partais en Afghanistan.
Alors comment on fait quand on est une mère et qu'on se dit je pars en Afghanistan où je risque d'être tuée et puis je laisse à la maison ma fille et mon fils?
Oui, c'est pas simple, hein, c'est très compliqué. C'est pas simple du tout. Parce que je ressentais une très forte culpabilité à l'idée de les laisser. Comme ça, en plus, pendant longtemps. Parce que souvent, je partais genre 3 semaines, 1 mois, donc voilà. À cette époque, il n'y avait pas de téléphone portable, c'était compliqué de téléphoner. Et c'était douloureux, c'était un arrachement, vraiment. Mais c'était... il fallait que j'y aille, voilà.
C'était plus
fort que moi. Je savais que j'étais souvent égoïste de le faire. Mais il fallait que je le fasse. Voilà, c'était ça qui, moi, me faisait vivre. C'était ce qui m'équilibrait, c'était ce qui m'intéressait, c'était ce que j'avais envie de faire. Le prix à payer était lourd, c'était laisser mes enfants. Ça aurait pu être très lourd pour eux, surtout, encore plus que pour moi. J'ai eu beaucoup de chance parce que la sœur de ma mère qui n'avait pas d'enfant, le jour où je partais, elle habitait Biarritz, je lui ai téléphoné, je lui ai dit s'il te plaît viens, je dois partir ce soir et tout ça. Et elle prenait l'avion et elle arrivait.
La fameuse tante de Biarritz, voilà. Surnommée Marmaille.
Mamaï, oui.
Qui était là, qui venait tout le temps, vous l'appeliez, elle venait. Même quand on vous disait tu pars demain pour la Libye.
Elle arrivait.
Heureusement qu'elle était là.
Oui, donc heureusement qu'elle était là. Il y a eu mes enfants qui, étrangement ou pas, ne m'ont jamais retenue. Même quand mon fils était tout petit, il ne m'a jamais retenue. Peut-être parce qu'instinctivement, ils ont compris que c'était essentiel pour moi de partir. Parce qu'ils m'ont toujours dit qu'ils étaient sûrs à 100% que je reviendrais. Ils n'en ont jamais douté. Jamais. Et donc, ça me protégeait aussi, d'une certaine manière, leur confiance absolue, à 100%. Donc, ça me protégeait. Donc, c'était difficile, je me demandais, puis leurs études, moi je suis pas là souvent à l'heure des devoirs, leur père s'occupait bien d'eux, hein, aussi, quand même, il faut le dire. Mais bon, je n'étais quand même pas là à l'heure des devoirs, je ne savais pas quel effet cela pouvait avoir sur la psychologie d'un enfant, je savais que certains psychiatres ont alerté les parents qui exerçaient des métiers dangereux en disant que leurs enfants pouvaient penser quoi, je ne suis pas assez beau ou assez belle pour, ou assez intelligent ou intelligente pour la retenir ou le retenir, que ça pouvait avoir des conséquences. Quand vous lisez ça, j'étais saisie. Mais bon, finalement, ils ont plutôt réussi leurs études. Ils se sont plutôt débrouillée dans la vie. Ça fait des enfants très très indépendants, pas du tout dans mes jupes, ça c'est sûr. Mais bon.
D'ailleurs, vous n'avez pas de jupe, vous êtes toujours en pantalon et en jean sur le terrain ou même ici, je le signale. Bon, je ferme la parenthèse.
Donc voilà, c'est... Je pense que chaque cas est particulier parce que j'ai des amis, filles, des reporters qui ont dû, voilà, qui ont abandonné ce métier quand elles ont eu des enfants. Elles ont senti que voilà, que c'était pas possible.
Sincèrement, c'est un métier, reporter de guerre, que l'on peut faire en étant mère de famille.
Moi, je l'ai fait.
Ou père de famille. Ou père de famille. Oui, je le dis pour les deux, quoi.
Bon, moi, je l'ai fait.
Ils vont être célibataires.
J'en connais d'autres qui le font aussi. Vraiment, il n'y a pas vraiment de règles. Si j'en ai vu qui ont abandonné, hommes comme femmes, et j'en ai vu qui ont continué, hommes comme femmes. Il n'y a pas de règle. Chaque situation est particulière. Je pense que si mes enfants s'étaient accrochés à moi, avaient pleuré, etc., je ne suis pas sûre que j'aurais pu continuer. Il se trouve qu'ils m'ont toujours soutenue, toujours laissé partir, toujours encouragée. Et que mes parents aussi. Mes parents ne m'ont absolument pas... mon père, qui était donc extrêmement sévère, il ne m'a jamais félicité pour quoi que ce soit. Mais par exemple, et ça j'avais été très touchée par ça, quand il était en train de mourir à Bayonne, dans une clinique, et moi j'étais en Irak. Et je n'arrivais pas à trouver d'avion pour rentrer. Et je l'ai eu au téléphone, et il m'a dit « c'est bien que tu sois à Bagdad ». Et cette seule phrase... m'a déchargée d'un poids sur les épaules, de la culpabilité de n'être pas auprès de lui alors qu'il était en train de mourir. J'ai trouvé ça incroyablement généreux de sa part de me dire ça. Et j'ai pardonné toute sa sévérité de mes années d'enfance. Finalement, j'ai pu rentrer à temps avant qu'il ne meure. Ça s'est passé comme ça, dans ma famille.
Et je crois même que votre fille vous a fait quelque chose un peu du même ordre. Hein, à un moment, vous aviez dû quitter l'Irak.
Oui.
Parce que votre rédaction vous a demandé de quitter l'Irak, vous vouliez y rester.
Absolument.
Et vous étiez réfugié à Amman, voilà. Si je me souviens bien. Et Alexia, votre fille, vous appelle. Qu'est-ce que tu fais à Amman? Tu devrais être
c'est à Bagdad que ça se passe.
C'est à Bagdad que ça se passe. Et c'est elle qui vous dit, mais qu'est-ce que tu fais à Amman?
Exactement. Ouais. Exactement. Donc, j'ai ramé comme c'est pas possible pour avoir un nouveau visa. Donc, c'était très compliqué. J'ai quand même réussi à revenir à Bagdad. Mais voilà, Alexia a remis aussi les choses en place, vous voyez. Voilà. Et aussi la première guerre du Golfe, je me souviens, j'étais à Biarritz. Je nageais, et Saddam Hussein venait d'envahir le Koweït, et mon père aussi, encore, arrive vers moi et me dit « Mais enfin, qu'est-ce que tu fais là? Saddam vient d'envahir le Koweït !» Donc, bon, j'étais
pas... Par à Bagdad. Martine Laroche-Joubert, j'aimerais bien qu'on parle du retour maintenant, parce qu'on a parlé du départ, hein. Vous êtes prête à partir à tout moment quand on vous appelle pour aller sur les zones de guerre, les conflits, hein. Mais quand vous revenez, comment ça se passe? Vous venez de passer 15 jours, 3 semaines en Libye en pleine guerre, au Kosovo en pleine guerre. Et puis vous revenez en France, vous retrouvez vos enfants, vous retrouvez votre vie française, parisienne. Comment on vit ça, le retour?
C'est pas facile. D'abord, on a laissé beaucoup de gens sur place qui, eux, ne peuvent pas revenir se reposer, reprendre des forces... souffler, donc voilà.
Vous parlez de la population locale.
Oui, de la population locale, exactement, qui souffre, et que moi je suis partie. Il y a aussi un sentiment de culpabilité de les laisser tous, de les avoir interrogés, d'être entrés dans leur intimité, d'avoir parlé de choses si personnelles, et puis subitement, au revoir. Ça, c'est pas facile, c'est douloureux de faire ça. Et quand je voilà.
Excusez-moi, il n'y a pas un côté voyeur? Quelque part, excusez-moi, c'est un gros mot, mais est-ce qu'il n'y a pas un côté voyeur? Vous venez, vous filmez, vous interviewez, vous témoignez d'une certaine manière, mais hop, vous repartez, vous changez rien.
Je ne me dis pas que c'est un côté voyeur, je me dis que je relais leurs paroles, je relais leur situation, que j'ai un rôle et qu'ils ont été contents que je sois là. Voilà, j'ai toujours vu les gens apprécier ma présence. J'ai rarement été rejetée. Très rarement. Mais quand je rentre à Paris, donc je pense à eux quand même, que j'ai laissé sur place. Et à Paris, j'ai tendance à m'isoler. Je n'ai pas envie de voir des gens. Je n'ai pas envie de trouver une vie sociale.
Pourquoi?
Parce que dans des déjeuners, même avec des amis, des dîners, j'ai pas tellement envie de parler de ce que j'ai vécu. Parce que j'espère qu'ils ont vu mes reportages. J'espère avoir dit le mieux possible ce que j'ai pu voir dans les reportages qui ont été diffusés. Je n'en ai pas envie parce que j'ai du mal à communiquer. Je ne veux pas comment communiquer avec des gens qui n'ont pas forcément envie d'entendre ça à Paris. Vous savez, les gens ont leur vie, ils n'ont pas envie d'entendre des histoires dramatiques, des histoires douloureuses.
Pourquoi ils veulent l'entendre sur leur journal télévisé de 20 heures et pas autour de la table avec quelqu'un qui l'a vécu ?
Parce que c'est souvent trop lourd et les gens ont aussi un sentiment de culpabilité parce qu'ils se disent, bon, je vois ça, même ils le voient, ils entendent. Et souvent, les gens se disent, mais qu'est-ce que je peux faire au fond ? Qu'est-ce que je peux faire ? Pourquoi on me dit ça ? Qu'est-ce que je peux faire ? Et il n'y a qu'un seul conflit que les gens ont rejeté violemment, c'était le conflit en Yougoslavie. Parce que Sarajevo, c'était une ville qui était trop proche d'une ville française.
Deux heures de Paris.
Voilà, les gens étaient comme vous et moi. C'était une ville internationale, cosmopolite. Il y avait eu les Jeux Olympiques en 1984. Donc c'était une guerre qu'ils n'arrivaient pas à intégrer. Parce que je pense qu'ils s'identifiaient trop, que ça leur rappelait aussi des souvenirs de la Deuxième Guerre mondiale pour les plus âgés. Donc souvent, j'ai eu des réactions hostiles du genre « Comment osez-vous montrer de telles horreurs dans le journal de 20 heures ?» J'ai entendu ça. Mais... il y a aussi des gens qui disent, quand je rentre, oh là là, dis donc, tu avais une sale mine. Ça, on entend ça très souvent. Hein. Oh là là, tu t'es bizarrement habillée quand même.
C'est ce qu'ils ont retenu.
C'est ce qu'ils ont retenu.
Ça, c'est pas frustrant pour
un peu. Ou alors, ah, dis donc, je t'ai vue. Attends, mais où est-ce que tu étais ? Tu étais en Syrie, en Libye. On me dit beaucoup ça à Paris, beaucoup moins en province. En province, les gens sont plus attentifs.
Vous avez risqué votre vie et tout ce qu'on vous dit, c'est « Ah, t'avais une petite mine ».
Oui, c'est ça.
C'est un peu frustrant,
oui,
ça.
Oui. Mais bon, c'est comme ça. Ouais. C'est le jeu. Je n'en veux absolument pas aux gens qui me disent ça parce que...
Mais Martine Laroche-Joubert, vous ne sentez pas un énorme décalage lorsque vous revenez, allez, je prends la Syrie, là, vous avez passé beaucoup de temps en Syrie, où vous avez vu ces hommes, ces femmes à Homs, par exemple, qui luttaient pour survivre au quotidien. Et puis, notre vie confortable en France. Hein, je le mets entre guillemets, parce qu'il y a des gens, bien sûr, qui sont dans des difficultés économiques, là, mais globalement, on est dans un pays de cocagne, comparé à la Syrie.
Bien sûr, oui, bien sûr.
C'est pas dur pour vous, la journaliste que vous êtes, de passer de l'un à l'autre comme ça et de voir les réactions des Français.
C'est pas tous les Français. Hein. Bon, il y en a qui ont très peu de connaissances et ça ne les intéresse pas tellement de savoir ce qui se passe ailleurs. Et voilà, c'est surtout les histoires franco-françaises qui les intéressent. Mais finalement, beaucoup de gens sont beaucoup plus intéressés qu'on ne le pense par ce qui se passe dans le monde. Parce que, en réalité, même s'il y a actuellement des guerres, je dirais, de basse intensité, le monde est tellement connecté et les gens s'en rendent compte. Et souvent, je rencontre des gens qui sont presque plus calés que moi sur la géopolitique. Et on a remarqué aussi quand même que dans les journaux, quand on passe des sujets sur des conflits, sur des guerres, sur des situations fortes, les gens ne zappent pas. Les gens, vous voyez, sur les journaux télévisés, on regarde ça minute par minute et même 30 secondes par 30 secondes. Donc nos rédacteurs en chef s'en aperçoivent tout de suite. Donc le meilleur compliment qu'ils nous font le lendemain, en général, c'est « Ah, et personne n'a décroché. Ah, bon, ouf. » Donc les gens s'intéressent aussi, mais ils n'ont pas forcément envie que je leur en parle et que je leur mette un fardeau de plus sur les épaules. Donc s'ils viennent vers moi en me posant des questions, je réponds, bien entendu. Mais moi aussi, j'ai quand même besoin de passer par un sas de décompression. C'est pour ça que j'ai tendance aussi à m'enfermer un peu chez moi pendant 10 jours. Je lis, je regarde des séries, je m'évade aussi, moi, dans d'autres mondes.
Mais Martine Laroche-Joubert, vous êtes l'une des rares reporters de guerre à durer autant dans le métier. La plupart décrochent au bout de 10 ans, certains au bout de 15. Certains ne décrochent pas, deviennent alcooliques. D'autres se suicident. Vous, qu'est-ce qui vous fait tenir ?
Parce que ça m'intéresse, franchement. Le reportage est quelque chose qui m'intéresse. Le reportage, je vous l'ai dit, ça aide à mieux comprendre la nature humaine. Et je veux dire, si on fait des reportages chez les Gilets jaunes, par exemple, et tout, je pense que ça apporte beaucoup aux journalistes. On rentre aussi dans des univers qu'on ne connaît pas. Nous, on est assez protégés de tout ça à Paris. Donc, c'est intéressant aussi. Les guerres, bon, c'est le niveau d'intensité est encore plus fort puisque tout est une question de vie ou de mort. Mais tout ça, c'est intéressant. Moi, c'est ce qui me fait tenir. Mais j'en ai vu d'autres qui tiennent. Par exemple, quand j'étais à Alep il y a 2 ou 3 ans, j'ai vu le photographe Don McCullin. Il avait 78 ans et il était là et il courait comme tout le monde dans les carrefours pour éviter les tirs des snipers. Bon.
Attends, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est une drogue dure quelque part.
Oui, il y a de ça, mais il n'y a pas que ça. Il faut être lucide sur ses motivations, sur tout ça, sur ce qu'on est. J'ai cherché à analyser un peu plus profondément pourquoi j'aimais ce genre de situation. Je suis allée voir des psys. Alors, les psys, alors eux, ils ont des théories. Aller sur les zones de guerre, ça veut dire qu'on a des névroses tellement terribles qu'il faut absolument guérir cette névrose. Et du coup, ça serait une victoire pour eux si on n'allait plus sur les zones de guerre. Bah justement, quand même, c'est ça qui m'intéresse, moi. Donc tant pis pour les névroses.
Vous voulez vivre jusqu'au bout avec votre névrose.
Exactement.
Visage, RCF.
Martine Laroche-Joubert, vous êtes une femme au front, pour reprendre le titre de votre livre. Le fait d'être femme reporter de guerre, qu'est-ce que ça a comme avantage ?
Ça n'a que des avantages.
Que des avantages.
Que des avantages. Parce que dans une équipe de télé, quand il y a une femme, ça adoucit les rapports. Quand j'arrive dans une famille, ou même quand j'arrive au milieu de combattants, le fait que je sois une femme, ça rend les gens plus zen de voir une équipe de télévision arriver comme ça. Ils sont davantage prêts à se confier. Les femmes aussi sont davantage prêtes à me raconter leur histoire quand ce sont par exemple des femmes voilées, quand ce sont des esclaves sexuelles. Je pense qu'elles me parlent à moi plus facilement parce que je suis une femme. Et dans d'autres circonstances, quand je vais voir des ultra-fondamentalistes, le fait que je sois une femme aussi, ils se méfient moins de moi. Donc du coup, je peux faire des reportages d'une manière qu'ils n'ont pas forcément prévue ou envisagée eux-mêmes.
Vous dites que l'une de leurs faiblesses, c'est de penser qu'une femme ne pourra pas les atteindre,
leur faire du mal. Exactement, parce que pour eux, les femmes ne représentent pas grand-chose. Ouais. Donc, du coup, moi, ça me laisse davantage de liberté, étrangement. Et à un moment, d'ailleurs, toujours, ils viennent me dire, mais il y a nos femmes qui sont de l'autre côté, vous pouvez aller les voir, elles aimeraient vous voir, etc. Et moi, je passe de l'autre côté.
Qu'un homme ne pourra jamais passer de l'autre côté.
Donc je passe de l'autre côté, je vais voir leurs femmes, elles me montrent leurs enfants, je leur montre des photos de mes enfants. On discute un peu. Ça me permet, moi, de mieux comprendre aussi ce qui se passe, les liens entre les gens, etc. Donc, franchement, c'est toujours... C'est toujours, toujours, toujours un atout d'être une femme.
C'est vrai que vous avez de la chance, vous pouvez aller des deux côtés, côté des hommes et côté des femmes.
Exactement, des deux côtés. C'est vraiment un atout.
Est-ce que c'est un métier menacé, Martine Laroche-Joubert, grand reporter et grand reporter notamment en zone de guerre?
Ah oui, c'est un métier menacé tout simplement parce que d'abord il y a des gens qui déjà filment tout et nous par exemple à la télévision on reçoit des quantités d'images d'un conflit avant qu'on aille quelque part, il y a déjà eu des images.
Donc des gens sur le terrain
en fait. Des gens sur le terrain qui filment, qui envoient, etc. etc. Mais qui a pris ces images, d'où elles viennent vraiment? Bon, normalement on peut le vérifier d'une certaine manière, mais quand même, rien ne remplace l'expertise sur place. Mais pour les financiers qui prennent le pouvoir dans les rédactions, ils ne voient pas du tout pourquoi on enverrait des reporters qui, selon eux, coûtent cher dans un endroit où on reçoit déjà des images. En réalité, ils ont un raisonnement complètement biaisé. Plus on reçoit des images, plus il faut envoyer de reporters pour les vérifier. Mais ce sont des gens qui ne connaissent pas notre métier, qui n'en ont aucune idée, c'est pour ça qu'ils sont là d'ailleurs, et pour eux, nous sommes un luxe complètement inutile. Alors quand les patrons de presse savent leur résister, il n'y a pas de souci, mais quand les patrons de presse sont un peu frileux devant les coûts, parce que c'est vrai que ça coûte cher de nous envoyer, du coup il n'y a pas de reportage. Et ça c'est un désastre, parce qu'on nous envoie des images, mais voilà, qu'est-ce qu'elles veulent dire?
Un métier qui va mourir, vous pensez? Où il va y avoir un sursaut, un changement face
je
à toutes les fake news que l'on a aujourd'hui qui arrivent.
Voilà, il y a des fake news. C'est pour ça qu'il faut envoyer davantage de reporters. Ça me semble une évidence. D'autant plus que nous, on a fait beaucoup d'efforts de notre côté. Quand j'ai commencé à la télévision, on partait à 4. Maintenant, il nous arrive de partir à 2.
Le preneur d'image et vous.
Exactement. Et le preneur d'image, ça lui arrive quelquefois de faire lui-même le montage. Et franchement, c'est épuisant de tourner toute la journée. On fait nous-mêmes le montage et après on envoie le sujet par internet, c'est-à-dire ça ne coûte rien. Avant, ce qui coûtait cher, c'était les satellites et tout ça. Donc nous, on a une surcharge de travail sur nos épaules et surtout sur l'épaule du caméraman qui est énorme. Donc on fait l'effort de notre côté. Vous voyez, ça coûte cher, mais pas si cher que ça. Et beaucoup moins qu'avant. Et de toutes les façons,
j'espère que les rédactions vous auront entendu.
oui. J'espère. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre.
Martine Laroche-Joubert, pour terminer, quelque chose de très personnel maintenant. Quel est votre regard, j'irais, sur l'être humain, j'allais dire sur l'homme? Vous avez vu des hommes merveilleux, on en a cité quelques-uns, Stéphane Hessel, Mandela, le père Sérac, des femmes, vous en citez beaucoup dans votre livre, que vous admirez. Mais quel regard vous portez sur l'être humain capable du pire que vous avez vu et du meilleur que vous avez vu?
Je ne peux pas porter un regard sur l'être humain en général. Chaque personne est particulière. J'ai vu des héros, j'ai vu des monstres. Vraiment, chaque personne, c'est vraiment particulier. Qui va l'emporter? Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est les mauvais? Je suis toujours frappée depuis le début de l'humanité, il y a des guerres. J'étais avec ma petite fille l'autre jour dans les temples d'Angkor. On voit toujours des scènes de combat, des scènes de bataille. Chez les Incas, il y avait ça. Dans les civilisations anciennes, on dirait que la guerre est inhérente à l'être humain. Que le conflit, que l'envie de se battre, l'envie de pouvoir, plus exactement. Voilà, l'envie de pouvoir, l'envie de dominer les autres. Je ne sais vraiment pas qui va l'emporter. Je ne sais pas. Je ne peux pas prévoir l'avenir. Je sais qu'on est, même s'il n'y a pas, si l'on compare au siècle précédent où il y a eu les grandes guerres mondiales, il y a quand même partout des conflits de très basse intensité qui peuvent très vite gagner le reste de la planète, parce que moi, la planète, elle me semble devenir de plus en plus petite. Toute petite. Mais vraiment toute petite. Quelque chose qui peut arriver à bout de la planète peut avoir une influence tout de suite sur votre vie à vous. Voilà. Donc, je sais qu'elle est hyper connectée, de plus en plus petite, qu'il y a des gens formidables, qu'il y a des gens qui sont des monstres. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais c'est instable.
Mais vous voulez toujours continuer à les voir sur place?
J'espère.
Jusqu'au
bout. Oui.
Merci beaucoup Martine Laroche-Joubert, j'étais ravi de vous rencontrer, d'échanger autour de votre métier de reporter de guerre. Je renvoie sincèrement à votre livre Une femme au front, mémoire d'une reporter de guerre, que vous avez publié aux éditions du Cherche Midi. Prochaine destination, qu'est-ce que c'est?
Mossoul,
belle destination touristique. Merci.
Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, assistante de production Laurence Bocard, réalisation technique Philippe Faure.
Pour mieux connaître Présence, tapez www.radioprésence.com.
Flashback. Flashback, une chronique musicale de Michel Brun.
Nous avons vu la semaine dernière que Jean-Sébastien Bach était l'héritier d'une longue lignée de musiciens. L'héritier est le point culminant. Et que se passe-t-il après un sommet? Eh bien, il faut redescendre. Mais n'allons pas trop vite. Parlons tout d'abord de sa progéniture. Jean-Sébastien a eu 20 enfants. Je vous rassure, de deux épouses. Maria Barbara, dont il fut veuf à 35 ans, et Anna Magdalena, qui lui donna 13 enfants. Comme c'était souvent le cas à l'époque, beaucoup moururent en bas âge, et seule la moitié arrivèrent à l'âge adulte. Trois de ses enfants devinrent des musiciens d'une grande renommée. Il faut dire que leur père fut leur professeur, attentif et probablement très exigeant. Le second, Carl-Philippe Emmanuel, raconte cette anecdote. Jean-Sébastien aimait que ses enfants jouent pour l'aider à s'endormir. Un soir, pensant que le patriarche s'était assoupi, il arrête de jouer juste avant l'accord conclusif du morceau. Jean-Sébastien se réveille alors, lui donne une gifle, plaque l'accord manquant et se rendort. L'histoire est peut-être un peu enjolivée, mais elle est trop belle pour qu'on la passe sous silence. Est-ce l'effet de cette gifle ? Carl-Philippe Emmanuel deviendra un compositeur de renom, en particulier à la cour de Frédéric II de Prusse. C'est d'ailleurs lui que son père viendra visiter à la fin de sa vie, ce qui engendrera la composition de l'Offrande musicale, un de ses chefs-d'œuvre, mais c'est une autre histoire. Je vous avoue que j'ai un faible pour Wilhelm Friedman, le premier fils de Jean-Sébastien, sans doute le plus doué de tous. Il tenta, à une époque où cela était très peu courant, de devenir musicien indépendant, non rattaché à une cour, un intermittent du spectacle avant la lettre, quoi. Cela ne lui réussit pas. Il finit sa vie dans la pauvreté et, disent certains, sans qu'on en ait de preuve, dans l'alcoolisme. Mais quel talent ! Écoutons un extrait d'un de ses duos pour flûte. Enfin, il y a Johann Christian, Jean Chrétien, surnommé le Bach de Londres, parce qu'il vécut et mourut dans cette ville. Pour tout dire, ce dernier fils de Jean-Sébastien est sans doute le moins doué des trois. Mais il est intéressant car son style participe de la transition de la musique baroque de papa vers la musique classique de Mozart. Ce dernier dira d'ailleurs avoir été influencé par lui et arrangera certaines de ses sonates. Et les filles dans tout ça ? Eh bien, il faut avouer que le rôle de la femme dans cette société très conservatrice était plutôt d'élever les nombreux enfants. Anna Magdalena, la seconde épouse de Jean-Sébastien, était pourtant une remarquable chanteuse. Je lui consacrerai d'ailleurs un jour une chronique à elle toute seule, car elle le mérite bien. Et après ? Eh bien, la descente du sommet est brutale. Plus rien, ou presque. La lignée des Bach musiciens s'éteint. C'est comme si l'ombre du grand Jean-Sébastien avait empêché toute repousse.
Présence sur le plateau de Lannemezan, 92.2.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Radio Vatican.
Le pape François invite les hommes d'aujourd'hui à trouver le visage de Dieu dans les plus faibles et les exclus. Le Saint-Père présidait tout à l'heure.